Cabiro.
À votre avis, pourquoi est-ce que la date et le jour de l'indépendance du Burundi sont-ils si importants?
C'est si important, comme vous dites bien. Et c'est si important pour les deux protagonistes principaux. Quels sont ces protagonistes principaux face à face? C'est d'une part Rwagasore et son parti Uprona. C'est le Burundi face à l'autre vis-à-vis qui est la puissance administrante du royaume du Burundi à ce moment-là, jusqu'à la date du 1er juillet 1962. Les deux protagonistes, Rwagasore veut l'indépendance immédiate. Son vis-à-vis, la puissance administrante, la Belgique, veut l'indépendance, oui, mais à la date qu'elle décide et dans les conditions qu'elle détermine. En particulier, que la Belgique, la puissance administrante, soit assurée, s'assure et rassure ses partenaires du monde occidental, de l'OTAN, en d'autres termes, qu'il rassure et elle-même et ses partenaires qu'au Burundi, il y a une succession assurée sur pour assumer les responsabilités du nouvel État. Si la Belgique est assurée de cela, de l'homme qu'elle place à la tête du Burundi, à ce moment-là, elle peut se dire, après l'indépendance, moi, puissance administrante, moi, représentant des autres pays de l'OTAN, moi, je peux assurer que la succession au Burundi est correcte au regard de mes intérêts géopolitiques et géostratégiques. Alors, à ce moment-là, la date de l'indépendance me convient. Si mon adversaire, Rwagasore, pense le contraire, si il met un obstacle à cela, s'il veut le pouvoir immédiatement, s'il veut assurer ma relève immédiatement, sans condition, sans que je lui dicte des conditions, à ce moment-là, la bagarre va éclater entre moi, puissance administrante, représentée par Jean-Paul Laroy, mon résident général, à Bujumbura, l'affaire va éclater, le conflit va éclater. Si je m'assure que Rwagasore est éliminé, politiquement, si possible, autrement, si c'est nécessaire, à ce moment-là, la date de l'indépendance, je peux l'accélérer ou la retarder à ma convenance, cela n'a plus d'importance du moment que je suis assuré que Rwagasore n'est plus en obstacle et ce n'est pas l'homme que je cherche. En d'autres termes, je cherche une autre personne. Il n'est pas question qu'il y ait à Bujumbura une autre personne qui n'entre pas dans mon dessein géopolitique et géostratégique. De même, il n'est pas question qu'une autre personne prenne le pouvoir à Kigali. C'est mon choix. Je l'ai fait depuis longtemps. C'est mon choix. C'est Kayibanda et pas un autre. Je ne cherche pas à mettre Mbonyumutwa à la tête du Rwanda après l'indépendance. Je ne cherche pas à mettre un Hutu au pouvoir au Rwanda. Je ne cherche pas, moi, puissance administrative, moi, Belgique, moi, représentant de l'OTAN au Burundi et au Congo et Kigali, moi, le représentant spécial du monde occidental, je ne cherche pas à mettre une autre personne à Kigali que Kayibanda.
Dans ce débat concernant la recherche de la meilleure formule favorable à l'indépendance, mais du côté de la Belgique, pour les intérêts, pour protéger les intérêts de la Belgique, comment en arrive-t-on au code colonial de 1956 et que contenait ce code colonial?
La Belgique, depuis 1956, cherche un successeur qui soit favorable. En fait, la Belgique, comme tous les pays, cherche à mettre à la tête des anciens territoires coloniaux leurs hommes de confiance. L'Angleterre cherche la même chose. La France cherche la même chose. Le Portugal cherche la même chose. La Belgique n'échappe pas à la règle. Tous cherchent des hommes favorables qui vont assurer, entre guillemets, leur succès. Ils veulent des hommes sûrs. En fait, des nègres de service. Si vous ne convenez pas, si quelqu'un s'avise de marcher dans les traces des nationalistes, des patriotes. Il est éliminé. Et regardez, la Belgique a fait dans les trois pays qui dépendaient d'elle. Mais elle a balayé tous les grands nationalistes patriotiques panafricains. Il les a, la Belgique a éliminé Mutara en 59, le 25 juillet 1959 à Bujumbura. La Belgique a éliminé Lumumba le 17 janvier 1961. Il reste Rwagasore. Et tant que Rwagasore n'est pas éliminé, la Belgique ne peut pas accepter aucune date de l'indépendance.
Mais le code colonial dont on parlait tout à l'heure, il intervient en 56, c'est donc avant que Rwagasore entre dans la bagarre de la recherche de l'indépendance.
En 1956, vous vous souvenez, c'est le professeur Van Bussen qui a proposé un plan de 30 ans pour l'indépendance du Congo belge et du Rwanda Burundi. 30 ans.
Qu'est-ce qu'il était, ce monsieur Bussen?
Van Bussen, c'est un professeur de l'Institut supérieur d'Outre-mer d'Anvers, un professeur d'université donc, qui propose un plan d'émancipation politique pour le Congo belge et le Rwanda Burundi. Un plan de 30 ans. Donc, les trois pays, le Congo belge, le Burundi et le Rwanda, se préparent pendant 30 ans pour éventuellement recevoir la consécration qui serait l'indépendance. Pendant 30 ans. Donc, t'es un rêveur, t'es un professeur de l'Institut belge d'Outre-mer d'Anvers, l'Institut qui prépare les futurs coloniaux. C'est là
qu'est-ce
que
Rwagasore a été. Qu'est-ce qu'il propose alors? L'indépendance dans 30 ans et après?
Dans 30 ans, à partir de 56, cela nous mène à 1986. Au mieux, si tout va bien.
Et donc, il dépose cette proposition. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est discutée au Parlement? Elle est adoptée par le gouvernement belge? Que devient cette proposition?
Van Bussen fait la proposition en 56 et à ce moment-là, c'est un rêveur, un précurseur, genre de professeur qu'on ne souhaite pas dans la colonie, surtout quand il était des problèmes aussi sérieux que les problèmes de la colonie. Il est considéré presque comme un fou, au mieux. L'indépendance pour ces pays, mais qu'est-ce qu'il est ce rêveur-là? C'est à peine s'il n'a pas été mis en prison. En 56, immédiatement après, le Parti démocrate chrétien belge, on y est, Parti démocrate chrétien belge, qui est prédominant depuis des années sur la scène politique belge, et qui a continué, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le Parti démocrate chrétien belge sort, publie ce qu'il a appelé le manifeste colonial du Parti démocrate chrétien belge. Ça, c'est important à comprendre. Dans ce document, le Parti démocrate chrétien belge propose que le Congo belge, le Burundi et le Rwanda soient préparés à former une communauté avec l'ancienne puissance belge. Les trois formeraient une communauté, une entité dépendante du royaume de Belgique, genre Commonwealth à la Belge, genre relation Canada-Royaume-Uni, où le premier ministre du Canada a comme au-dessus de lui la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre est le chef du Canada.
Le chef de l'État du Canada, oui.
C'est le souverain du Canada. C'est ce genre de dispositif que cherche le Parti démocrate chrétien. C'est ce genre de dispositif constitutionnel que cherchent les colons du Kivu et du Katanga. C'est ce dispositif-là que cherche la classe politique qui va être pressentie pour diriger nos trois pays.
Et l'Église catholique?
Oh là là, alors là, elle est tout à fait dans son bain. Alors, en même temps, pendant presque le même mois, les propriétaires du magazine Conscience africaine publient une contre-proposition à celle du Parti démocrate chrétien et dans le manifeste de Conscience africaine, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ils font une proposition juste inversée, contraire à celle du Parti démocrate chrétien. Le manifeste de Conscience africaine, c'était comme ça qu'on appelait le magazine Conscience africaine. Dans ce manifeste, les auteurs du document proposent que le Congo belge et le Burundi et le Rwanda forment, oui, éventuellement une communauté, mais après l'indépendance de chaque parti. Que le Congo d'abord soit indépendant, en tant qu'entité connue et reconnue, le Burundi de même, le Rwanda de même, et qu'après leur indépendance, à l'heure, au jour convenu par eux, dans les conditions définies par eux, qu'ils puissent s'unir entre eux, dans leur intérêt géopolitique et géostratégique. Voilà deux propositions qui sont diamétralement opposées. Celle du Parti démocrate chrétien et celle de ce qu'on a appelé le manifeste de conscience africaine. C'est ce modèle justement inversé que le Gouagasone va adopter. C'est ce modèle-là de conscience africaine qui contredit le modèle du Parti démocrate chrétien. C'est celui-là que, en quelque sorte, va adopter Gouagasone.
Le parti. Et au Burundi, quelle est la partie ou la faction politique qui adopte l'anti-modèle, celui qui est développé par le Parti démocrate chrétien? Au Burundi, c'est qui?
Le Burundi,
en
c'est
face
qui
de Gouagasone.
Tiens, il y a justement, il y a le Parti démocrate chrétien créé, fondé par Baranyanga. Baranyanga fonde le Parti démocrate chrétien sur demande insistante du résident de Gitega, Ivan Résident. Celui-ci demande au Muganois, Grand Moutaré, le véritable patron du Parti démocrate chrétien burundais, c'est celui-là que sollicite le résident Ivan Résident, au nom évidemment de la Belgique. Et Baranyanga commence par hésiter. Finalement, le résident insiste, Baranyanga, Pierre Baranyanga, j'entends, le patron, le patriarche, et il accepte, il fonde le Parti démocrate chrétien burundais. Et c'est Denderezaki qui le pilote. Mais rapidement vient Biroli Joseph, son petit frère. Il vient des études, il vient de Belgique, il a déjà travaillé un peu au marché commun, et il rentre au Burundi, et le pilotage au quotidien lui est confié. Voilà, c'est ce parti qui est l'allié principal de la puissance administrante au sein du Front commun. Le Front commun, c'est l'ensemble de quelques 16 ou 17 petits partis satellites qui vont former avec le PDC le Front commun. C'est ce Front commun qui a la faveur de résident de Gitega parce qu'il adhère au modèle, à la démarche du Parti démocrate chrétien de Belgique. L'Église catholique est évidemment ravie parce que les hommes qui sont avec le colonisateur ne sont pas communistes, ils sont anticommunistes. Quiconque est pour l'indépendance immédiate, sans condition, quiconque veut être totalement souverain comme avant la colonisation, celui qui veut faire revenir le Burundi tel qu'il était avant la colonisation, un peuple souverain total, un peuple divers, mais qui a montré qu'il est capable de créer l'unité sur des années, des millénaires, qu'il est capable de créer une unité à partir de la diversité, qu'il est capable de créer un État fort, qui est respecté et respectable entre le lac Tanganyika et l'océan Indien, eh bien, cet homme-là, on ne peut pas le tolérer au Burundi. Il est intolérable. Et surtout, s'il veut contaminer et le Rwanda et le Congo. Or, Gouagasone.
Avant d'aller au Rwanda et au Congo, quelle était la personnalité de Baranyanga exactement? Comment est-ce que vous connaissez Baranyanga? Comment était-il?
Baranyanga, à mon sens, quand je considère ce qu'il a été, ce qu'il a fait, c'était un immense génie.
Pourquoi?
Allez, regardez, Baranyanga accueille, comme tous les princes burundais qui se respectent, il accueille la colonisation, le missionnaire et le colonisateur. Il les accueille. Et rapidement, il est identifié par les deux comme l'homme qui peut travailler avec eux.
Il travaillait déjà avec les Allemands.
Il travaille avec les Allemands, non seulement. Il a bien travaillé et se fait apprécier par les Allemands, mais encore, il les a accompagnés.
Il
les a
accompagnés
Tabora, semble-t-il. Jusqu'à Tabora, jusqu'au moment de la défaite totale, Baranyanga a fait demi-tour, il est rentré et il a trouvé les Belges qui cherchent à remplacer illico l'administration allemande. Il retourne à Rabiro et il est totalement à l'aise avec les Belges comme il était à l'aise avec les Allemands.
Qu'est-ce qu'il faisait avec les Allemands, au fait? Quel était son rôle avec les Allemands?
Mais il était considéré comme un homme capable de travailler avec pour gouverner le Burundi. Les Allemands cherchaient des hommes qui les aident à gouverner le Burundi et le Rwanda. Ils se sont dit, mais les Baganois que nous trouvons en place sont convenables et surtout Baranyanga. Baranyanga était un homme remarquable, intelligent, travailleur et il a travaillé avec les Allemands magnifiquement. Les Belges remplacent les Allemands, ils travaillent avec les Belges d'une façon efficace. Et c'est là où Baranyanga a montré du génie. Regardez, dans un autre domaine, qui a imaginé faire réaliser une plantation de 273, si pas 275 hectares de caféiers comme propriété privée. Aucun autre Muganois n'a planté la moitié de ça. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont planté, ni au Rwanda, ni au Burundi, qui a fait une plantation aussi vaste et qui rapportait au point que Baranyanka exportait sous le label Café Bara le résultat de sa récolte à l'extérieur, à son nom, Café Bara. Baranyanka était à la fois le catholique le plus convaincu et le plus convaincant, le progressiste à tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan chrétien. Regardez, l'église, la paroisse près Kayanza, sur la route Butareko.
Oui, sur la route vers le Rwanda, oui. Ruganza, oui. La mission de Ruganza.
Ruganza, non, pas Ruganza. Ruganza.
Il me semble.
Donc cette église-là, c'est Baranyanka qui l'a construite avec ses moyens, avec cette relation, avec cet homme. Et puis Baranyanka était d'une intelligence. Au point que le résident général, Jean-Paul Haroua, l'a appelé le prince de Bourgogne. Tenez, c'est pas petit. Même si Dieu est grand, Baranyanka n'était pas petit. Mais il était très grand, intelligemment, efficacement. Et il a fait un travail remarquable. Et il s'est fait apprécier. Et par les missionnaires, et par les colonisateurs. Et c'est pour cela que la colonisation, quand elle se sent coincée, elle se dit, mais si on pouvait avoir de notre côté un homme comme celui-là, avec ses fils, eh ben nous serions en position de pouvoir gagner la bataille de la décolonisation en notre faveur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont sollicité. Il a accepté finalement, un peu contraint, il a accepté et il a créé le parti, comme nous le disions. Et le voilà face à face avec Guagasole. Mais
avant Haroua, ça, avant ça, en 1945, il semble que la Belgique voulait le nommer, l'introniser roi du Burundi à la place de Mwambutsa.
C'est tout à fait exact. En 1945, sous l'instigation du résident d'alors Robert Schmitt, eh bien, celui-ci a proposé clairement à la puissance administrante, donc à la Belgique, de remplacer le Mwami Mwambutsa par Baranyanka ou par un de ses fils.
Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce plan réussisse?
Et qu'est-ce qui a coincé? Ce qui a coincé, c'est que Monseigneur Grosz, il est déjà là depuis 1938, en remplacement de Gorju. Grosz, qui est un homme remarquable, il a fait savoir officiellement au gouvernement belge que si cela arrivait au Burundi, la Belgique connaîtrait la pire des catastrophes provoquées par elle-même. La Belgique a reculé. Elle a montré qu'elle a reculé en renvoyant le résident Schmitt à l'Uliwabour de l'époque et Kananga d'aujourd'hui, au Congo. Allez, là-bas.
Désavoué.
Ne revenez plus. Désavoué. Et voilà Mwambutsa qui continue. Voilà Grosz qui continue. Et Grosz continue. Il est acquis à l'idée qu'il ne vient pas abolir, il vient accomplir. Grosz est dans les traces de son patron Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je ne viens pas abolir, je viens accomplir. Monseigneur Grosz dit la même chose. Je ne viens pas démolir la monarchie. Je ne viens pas démolir le modèle social, politique du Burundi. Je viens perfectionner ce que les Burundais ont fait.
Alors, au moment de l'indépendance, on se retrouve devant ce binôme Baranyanka Guagasore.
Oui, au moment où la question de l'indépendance est posée clairement, nous avons deux protagonistes, Dendereza, Baranyanka derrière le rideau, nous avons Birori un peu entre les deux, entre le père et son grand frère, et en fait, Baranyanka, Dendereza, son fils, ses deux fils, ils ne conviennent pas tout à fait au dessein réel de la Belgique. La Belgique n'entend pas laisser le Burundi entre les mains d'un prince, entre les mains d'un Tutsi. La Belgique n'entend pas laisser le Rwanda entre les mains d'un Tutsi et même entre les mains d'un Hutu. La Belgique veut un homme sûr à Kigali, un autre, si c'est possible, si c'est nécessaire, à Bujumbura. La meilleure solution pour la Belgique serait que la même personne choisie par elle au moment où elle le veut, dans les conditions requises, fixées par elle, que ce soit le Burundi et le Rwanda forment déjà une même entité, et à la tête de cette entité, nous nouvelle Burundi-Rwanda ou Rwanda-Burundi, que cette entité nouvelle, fondue, créée par la force des choses, par la force du colonisateur, que cette entité soit gouvernée, soit pilotée par une seule personne, Kayibanda. Elle ne veut pas d'entité, évidemment, à la tête du Rwanda, mais pas du tout. Elle ne veut pas non plus d'en Hutu, ni au Burundi, ni au Rwanda. La Belgique veut Kayibanda. La Belgique veut un étranger.
Mais Kayibanda a été produit, Kayibanda est le produit manifeste des Bahutus de 1957. Est-ce qu'il y a une relation entre le code colonial de 56 et le manifeste des Bahutus de 57?
Oh, magnifique question, Atanas. Eh bien voilà, il y a une filiation directe. Direct. Le manifeste des Bahutus de 1957, mars 1957, le 24 avril, le 24 mars 1957, ce manifeste-là est une réponse, en somme, est une réponse de la position à la position de Mutara et de son conseil supérieur du pays. Les deux, le Mwami Mutara et le conseil supérieur du pays, proposent, peu après la publication du manifeste du Parti démocrate chrétien, peu après la publication du manifeste de conscience africaine, le Mwami Mutara et son conseil supérieur du pays demandent que l'occasion de l'indépendance s'accélère, que le Rwanda soit rapidement préparé à reprendre sa souveraineté. Mutara vient de toucher à un point sensible et de la Belgique. Mutara vient de son conseil supérieur du pays, composé à majorité de tous. Mutara vient de signer sa condamnation à mort en proposant indépendance, même timide, même le mot progressif, il a peut-être utilisé, et il veut simplement du progrès, mais il a déjà péché mortellement au tendon d'Achille, du colonisateur belge.
Et c'est pour ça qu'il est éliminé à Bujumbura, c'est ça?
Mais ça va venir, à cause de ça, ça va venir le 25 juillet, le 25 juillet 1959, ça va venir après l'assassinat de Mutara. Les Tutsis doivent être chassés, sans que les Hutus prennent le pouvoir effectif au Rwanda et au Burundi. Pas question. Voilà, vous faites bien de nous amener sur cette question. Le manifeste de 1957, c'est la réponse à Mutara et au Conseil supérieur du pays. Et aussi, c'est la réponse du Conseil supérieur du Burundi. Conseil supérieur du Burundi qui, le 3 février 56, sur l'instigation de Rwagasore, envoie une position, une requête officielle au
projet de constitution, semble-t-il,
demandant que le Burundi soit doté d'un acte constitutionnel. Eh bien, un acte constitutionnel, il s'entend, ne peut n'est concevable que dans le cadre d'une indépendance. En fait, le Burundi, c'est toujours comme ça qu'ils font. Ils passent par un billet pour dire ce qu'ils veulent. Le Boussassa, le Burundi. Ils n'ont pas demandé l'indépendance, ils ont demandé un acte constitutionnel qui dirige le pays par ses propres fils. En fait, le Burundi a demandé l'indépendance sans la demande.
Et pour le manifeste des Bahutus ne demande pas l'indépendance aussi. Que demande-t-il d'ailleurs?
Eh bien, l'indépendance, le manifeste des Bahutus de 1957 ne demande pas l'indépendance. Pas du tout. Le manifeste des Bahutus de 1957 demande deux choses. L'une, que la Belgique aide les Bahutus à se débarrasser de la domination multiséculaire, de la domination multiséculaire des Tutsis. Première demande, explicite, officielle. Les Bahutus disent, Belgique, la mère de nous les petits, nous demandons à notre maman de nous débarrasser de la domination Tutsi qui dure depuis 900 ans. C'est le manifeste qui parle. Il se fait qu'au moment où ce manifeste est écrit, au Burundi, les Tutsis ne gouvernent pas, c'est la Belgique qui gouverne. C'est le roi de Belgique qui est souverain du Rwanda, comme du Burundi, comme du Congo. Mais la Belgique comprend très bien qu'on lui demande de débarrasser de la domination Tutsi. Tutsi qui ne domine pas à cette époque, c'est la Belgique qui domine le Rwanda, peu importe. Du moment que les Tutsis, ces Tutsis donnent du fil à retordre, c'est tout ce qui empêche le résident général de dormir, soit le résident de Gitega, lui à Bruxelles ne dort plus à cause de ce trio, Rwagasore, Ngambutsa, Muhirwa, et puis Ngenadoumwe va venir. Et tout, mais c'est Jean-Luc qui ne laisse pas la Belgique dormir, c'est celui-là qu'il faut éliminer. Évidemment, au Rwanda, il faut rapidement éliminer et Mutara et les Tutsis, comme au Burundi, il faut nettoyer ça. Et c'est ça que demandent les Hutus. Un, deux, les Hutus, dans ce manifeste, ils demandent une deuxième chose. Ils demandent que le Burundi et le Rwanda rejoignent le Congo dans une communauté économique. Ils ne disent pas politique, non, économique. Voilà deux demandes du manifeste. Voilà deux demandes formulées par 9 signataires, dont Kayibanda. Voilà 9 signataires qui signent un document aussi important, qui engage à ce niveau l'avenir et du Burundi et du Rwanda, un document qu'ils n'ont pas préparé. préparé. Mais diable, qui a préparé ce document de manifeste des Bahutu? Qui?
Vous l'avez déjà catholique. Dit, c'est des missionnaires du Rwanda.
Je les nomme, je les rappelle, il s'agit du père, je pense, Arthur de Jomep, et du père Navo. Il s'ajoute un troisième, qui a conçu avec les deux le projet du manifeste des Bahutu. C'est un nommé Albert Moss n'est plus prêtre.
Il a des prophètes.
N'est plus missionnaire. Albert Moss est un ancien père de Skop, la congrégation qui règne en maître au Congo, de Skop. C'est un ancien missionnaire de Skop au Congo qui a défroqué. Et tiens, curieux. Sur le portail Aresha, là où réside Moss, c'est-à-dire sur la route Bujumbura-Lumonge, se trouve la propriété de Moss, il était écrit sur le portail Olim Sacerdos. Olim Sacerdos en latin. Olim, c'est jadis, pour traduction en français. Olim, dans le temps Sacerdos. Olim, je fus prêtre. Olim Sacerdos. Je fus prêtre dans le temps. C'était écrit sur le portail.
Alors, la date de l'indépendance au Burundi, si on peut accélérer un peu l'exploration de cette histoire, elle devient importante quand la bagarre, si je peux dire, entre les tenants de l'indépendance immédiate et les tenants de l'indépendance dans 30 ans ou les tenants d'une indépendance qui n'arriverait jamais, c'est quand cette bagarre se forme.
L'empoignade se produit dès que il apparaît clairement que rien à faire, l'indépendance des peuples africains et notamment du Burundi, du Rwanda et du Congo belge est inéluctable. On ne peut pas en sortir autrement sinon par l'euro, c'est-à-dire par l'indépendance, la donnée. La question restant au plan géopolitique et géostratégique, qui on va laisser à la place du colonisateur? Qui assure le mieux? Qui va assurer le mieux? Qui a les chances d'assurer le mieux l'intérêt géopolitique et géostratégique de l'ancienne puissance? Qui? C'est celui-là qui pose problème. Quand ce problème de qui est trouvé, à ce moment-là, la puissance administrante fait tout pour que celui-là acquiert les clés du pouvoir au moment où la puissance coloniale le décide souverainement. La puissance coloniale donne les clés. Pourquoi que ce veut arracher les clés du pouvoir? Arracher des mains. Donnez-moi, c'est mon dû. C'est mon héritage. Le Burundi, c'est mon pays, c'est pas le vôtre.
Quelle date il proposait le Rwagasore pour l'indépendance?
Alors, voilà, on y va. Rwagasore, la première date qu'il avance pour l'indépendance du Burundi, c'est le 27 décembre 1960.
La date du Muganuro, habituellement.
La date du Muganuro. La date du Muganuro. Voilà une proposition d'office inacceptable pour la puissance administrative. Donc, le Muganuro au Burundi pourrait correspondre avec la date de l'indépendance du Burundi. C'est donc ce que veut Rwagasore. Ça, il n'est pas question que le Burundi reçoive l'indépendance le jour du Muganuro. Rwagasore rejoint la symbolique bénie de nos ancêtres, le Muganuro. Le Muganuro, où le roi du Burundi, le Mwami du Burundi, déployait toute sa splendeur, toute sa bénédiction sur son pays, sur son peuple, sur le monde. C'était le jour où, de la bénédiction. C'est le jour béni. C'est le jour du renouvellement, le renouveau. Le pays, le Burundi, se renouvelait chaque année, renouvelait ses forces, renouvelait ses énergies chaque année.
Donc c'était
chaque
une provocation année. Pour la puissance coloniale.
Une provocation intolérable, ça ne peut pas se faire à aucun prix. Deuxième raison pour laquelle la puissance administrante repousse avec fureur une telle proposition, qui est une provocation. La deuxième raison, c'est que Rwagasore fait cette proposition misère de misère avec son vis-à-vis du Front commun Birori Joseph, qui est président du PDC, qui est le fils un des acteurs du camp Bataré, piloté par le grand patriarche, le génie des génies. Et voilà Rwagasore qui contacte Birori. Les deux se mettent ensemble. Il faut la proposition à la puissance de tutelle de donner l'indépendance le 27 décembre 60. Et au même moment, quand les Rwagasore et Birori font la proposition, le conseil supérieur du Burundi a fait mieux. Il a dit non, nous, Conseil supérieur du pays, nous voudrions que plus tôt, le Burundi accède à l'indépendance le 30 juin, avant le Congo, en tout cas, avant le Congo. Et ils s'expliquent, ils disent, le Congo est déjà le principe de donner l'indépendance au Congo avant, pardon, c'est, ce serait le 21, ça a été fixé, le 21 juin.
Le 21 avant juin, le Congo le 30.
Avant le Congo le 21 juin 1960. C'est la date que fixe le Conseil supérieur du Burundi pour l'indépendance du Burundi. Avant le Congo. Pourquoi avant le Congo? Les membres du Conseil supérieur du Burundi s'expliquent. Ils disent ceci. Le Burundi, c'est un ancien royaume africain qui s'est fabriqué, qui s'est bâti, qui s'est construit lui-même avec son propre génie. Dans sa diversité, ce pays a tiré l'unité et ce pays demande, exige d'être indépendant avant le Congo. Le Congo qui est une fabrication du colonisateur, il n'existait pas avant la colonisation. Le Congo existe depuis la colonisation belge, depuis que le roi Léopold II en a pris possession. Il n'y a même pas un siècle de ça. Le Burundi existe depuis des millénaires, 30, 40 peut-être. Eh bien, le Burundi demande d'être indépendant avant le Congo. Pas question qu'il soit indépendant après le Congo, parce que le Burundi a précédé le Congo sur la voie de l'autodétermination. Voilà deux dates. 21 juin 60, 20 août, 27 juillet, quand ça n'a pas marché. Eh bien, la Belgique trouve que ce Conseil supérieur du pays, ce Rwagasore, sont des gens insupportables. Il faut s'en débarrasser. Et il est avec Birori. Birori s'est mis avec Rwagasore pour exiger une chose interdite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette connivence avec entre Rwagasore, Amwezi et Somuta? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Baranyanga nous a trompés. Non, Baranyanga ne les a pas trompés. Birori est appelé à l'ordre par son grand frère au nom de son père. Et à partir de cette date, le Parti démocrate chrétien burundais, c'est Dendereza qui le prend en main direct. Mais de forme, Birori continue à diriger le Parti démocrate chrétien. Et par conséquent, le Front commun, parce que le pilote du Front commun, c'est le PDC, et le PDC est piloté par Birori ou le fils Baranyanga, ou les deux. Voilà. Et la Belgique trouve que c'est une insolence sans nom. Et Birori est rappelé. Alors, immédiatement, l'affaire est oubliée. Rwagasore continue sur sa lancée.
Et quel est le moment clé où la Belgique accepte, contrainte et malgré elle sans doute, l'indépendance des trois colonies, ou surtout du Burundi? Quand?
C'est après la conférence qui s'est tenue du 24 au 30 août 1960 à Bruxelles.
C'est la fameuse table ronde restreinte
entre les leaders politiques burundais, dont Liprona, et la puissance administrante de la Belgique. C'est à ce moment-là que les partis qui participent à ce colloque restreint de Bruxelles, c'est à ce moment-là que ces partis politiques en majorité demandent au gouvernement belge de prendre les dispositions juridiques voulues pour barrer la route à Rwagasore. Ainsi, Rwagasore sera éliminé de la course. Ainsi, nous n'aurons plus en face de Rwagasore comme principal adversaire. Et c'est à ce moment-là que la Belgique durcit le ton, accepte la proposition de la majorité des participants au colloque de Bruxelles. C'est à ce moment-là que la Belgique change le fameux article 24 du décret intérimaire du 25 décembre 1959. Cet alinéa 24, qui va être appelé alinéa 24 bis, il va être formulé comme suit, est interdit d'accéder à un poste quelconque électif les descendants directs du Mouamimouam. Ainsi, Rwagasore est juridiquement éliminé, Muhirwa est juridiquement éliminé.
Abarundi kuva kare narindi bari bamwikimakuru kurimbi amahoro ni nyama yikindi wabishaka yabibaza mu Burundi niyayibura kuko yaca yikimakuru imbi aharurukundo muhorura mwa urusha to gwimbaraga sarukifuka batanu gorora amaboko duhoberane icyo dupfa na burya kiruta icyo dupfa shira kugomba ko nshire kugomba kwe dusenyire ku mugozi umwe
Do Donc, il y a une conférence à Bruxelles des partis politiques bruxelles qui réclament l'indépendance et d'autres qui refusent l'indépendance, c'est ça ?
C'est ça. Ils ne refusent pas au principe, mais ils disent non, il n'est pas encore temps.
Et la, la Belgique, évidemment, est favorable à ce discours de partis politiques qui disent qu'ils ne sont pas prêts.
Et pour être sûr que, quoi qu'il arrive, Kwaga Sole ne pourra pas diriger le Burundi, il faut l'éliminer juridiquement d'abord.
C'est l'article 24 dont vous parliez.
Pardon ?
C'est l'article 24 dont vous parliez tout à l'heure.
Et il faut l'éliminer en vertu de l'article 24 bis du décret du 25 décembre 1959. Son vers alinéa 24 bis dit ceci. Les descendants du mami au premier degré ne peuvent accéder à aucun poste électif. Aucun descendant direct du mami ne peut accéder à un poste électif, quel qu'il soit politique ou non. Un poste électif, c'est interdit aux membres directs, aux descendants directs du mami, ainsi que ses affiliés. Donc, Kwaga Sole est éliminé, Muhirwe est éliminé, Ndenzako est éliminé. Les trois éliminés d'office. Et c'est les partis politiques, c'est la majorité des partis politiques participant à ce colloque. La Belgique accueille cette proposition, mais c'est elle qui a inspiré. Et la Belgique dit immédiatement, le résident général qui est à Bruxelles avec ces partis-là, il rentre d'Ardar à Bujumbura, il y prend directement, il signe ce décret. Tout de suite, le résident général. Et il le signe, nous sommes le 30 août 1960. Et le décret est signé immédiatement. Voilà. Alors, Kwaga Sole, est-ce qu'il va accepter ce diktat de la puissance de tutelle ? Kwaga Sole va passer outre. Il ne va pas s'incliner. Il refuse d'accepter l'inacceptable à ses yeux. Nul ne peut m'empêcher de diriger mon pays. Il le dit quand ? Il le dit clairement dans sa conférence. Dans sa conférence du 25 août 1960. Il le dit pratiquement pendant que se tient le colloque restreint de Bruxelles. Le colloque se tient du 24 au 30 août. Kwaga Sole tient sa conférence le 25 août à la Chambre de commerce du Burundi, à Bujumbura. Bonheur de bonheur. Et suprême bonheur pour moi. Je suis là, dans la salle où le prince Kwaga Sole tient sa conférence dans la Chambre de commerce et de l'industrie du Rwanda-Burundi. Vous voyez où il se trouve. Et c'est pour moi une grande joie d'écouter Kwaga Sole exposer à long et à large la vision de l'avenir. Kwaga Sole dit dans cette magnifique conférence, avec un calme, avec une dignité, avec une intelligence consommée, il dit ceci, je vous assure, rassurez-vous, je tiens à ce que le Burundi ne tombe pas dans le chaos comme le Congo belge se trouve dans le chaos, comme le Rwanda est déjà dans le chaos. Je vous assure, rassurez-vous amis du Burundi, rassurez-vous vous les Belges, rassurez-vous vous les étrangers qui êtes avec nous, rassurez-vous, nous allons être indépendants avec vous et nous n'allons pas vous expulser, nous n'allons pas vous chasser, nous allons construire le nouveau Burundi indépendant et ça j'y tiens, dit Kwaga Sole. Ça c'est un droit à nous et il n'y a pas de condition à ça. Rassurez-vous, vous allez construire, nous vous appelons à construire le Burundi indépendant et souverain avec nous. Vous serez à l'aise, vous serez dans la paix avec nous. Et je suis le seul qui peut arrêter les foules, toutes les foules du Burundi, les arrêter si jamais elles voulaient commettre l'irréparable comme ça s'est fait au Congo. Et je vous assure, croyez-moi, je tiens à ce que le Burundi soit indépendant, mais dans la paix avec vous. Magnifique. J'ai jamais été aussi comblé que ce jour-là où j'ai entendu Prince Kwaga Sole. Je l'avais déjà vu à l'Ovanium, aux festivités de l'indépendance. Mais quand je l'ai entendu devant ce parterre de blancs, de coloniaux, quand j'ai entendu Prince Kwaga Sole dire, rassurer les Belges, tous les étrangers, quand j'ai entendu un homme aussi intelligent, aussi jeune, aussi dynamique, je me suis dit, c'est une bénédiction pour mon pays. Et c'est à partir de là, curieusement, que la partie vis-à-vis, c'est-à-dire la puissance administrante, a dit, niais jamais Bagassoré ne peut se préparer à préparer l'indépendance et la souveraineté du Burundi à aucun prix. Première mesure qui va suivre presque immédiatement, deux mois et deux jours, le 27 octobre 1960 de la même année, Bagassoré va être contraint à la résidence forcée à Bururi. Pourquoi? Pour que les élections communales du Burundi et du Rwanda soient tenues en son absence. Pour qu'il ne participe pas aux élections. Pour qu'il ne mobilise pas ses troupes. Pour qu'il ne gagne pas ses élections. On l'enchaîne, on l'envoie à Bururi, résidence forcée. C'est à ce moment-là, clairement, où la Belgique montre les dents. Je n'entends pas badiner avec l'indépendance du Burundi. C'est un mauvais exemple pour le Rwanda, un mauvais exemple pour le Congo. Pour le Rwanda, se dit la Belgique, j'ai la situation déjà en main. La monarchie est presque partie dans la mesure où Mutara a été éliminé le 25 juillet 59. Dans la mesure où son successeur Kigeli ne peut plus mettre les pieds à Kigali comme roi du Rwanda. Dans la mesure où, au Burundi, si nous parvenons à éliminer Bagassoré politiquement, d'abord, Mwami Mwambutsa, c'est pas un problème. Les autres autonomes, c'est pas un problème. Bagassoré, c'est lui l'épine dans notre pied. Nous devons l'éliminer. Nous devons éliminer le parti Ipona. Nous avons déjà éliminé Lunard. Lunard est déjà en exil. Le Mwami Kigeli est déjà en exil. Les grands leaders de Lunard sont déjà en exil. Et un de ces grands de tout grand leader de Lunard qui était en activité pleine, dynamique, Jean Rwangombwa, est déjà en exil et c'est un des rares, parenthèse, c'est un des rares survivants de l'époque qui reste en vie et il habite à Toronto, il est encore en vie. Il est éliminé. Ensuite, le deuxième dangereux aux yeux de la Belgique, le docteur vétérinaire, le grand docteur et finalement professeur de sciences vétérinaires à l'université étrangère évidemment, Kayihura Michel. Kayihura est en exil et d'autres sont déjà en exil. Bon débarras pour la Belgique. La monarchie est partie. Les Tutsis sont en exil et le 1er novembre 1959 commence l'exode des Tutsis.
D'abord les massacres.
Les uns sont envoyés en exil et en même temps, sont des rescapés. Ils échappent au feu et à l'épée. Voilà le machin. Les Tutsis sont soit envoyés en exil, forcés, soit tués, soit parqués dans les camps de concentration de l'Est. À l'époque, c'était une punition d'être envoyé là-bas à cause de la mouche tsetse. Et ceux qui restent à l'intérieur du Rwanda, ceux-là sont déjà des morts parce qu'ils attendent la suprême punition qui débute le 6 juin 1994. Le génocide des Tutsis. On achève ce qui a été commencé en 1959. On termine. Les Tutsis demeurés qui ont accepté de rester au Rwanda, de travailler dans des conditions très dures. Ils se sont dépensés. Ils ont étudié. Ils ont travaillé. Ils ont investi. Ce qui ont accepté de rester. Malgré tout, ce sont ceux-là que l'on va assassiner en masse en 100 jours du 6 avril 1994. À partir de cette date, pendant 100 jours, on va assassiner 1 million de Tutsis. C'est-à-dire, tenez-vous bien, 10 000 Tutsis par jour. 10 000 Tutsis fois 100 jours, ça fait 1 million de Tutsis massacrés. Avec femmes et enfants, avec tout. Les engros, le bétail, tous les biens, tout est réduit en cendres et les hommes et les choses pourvu que la trace des Tutsis soit totalement effacée.
Revenons à l'histoire du Burundi. Nous sommes en 58. Bagassoré est en résidence surveillée à Bururi. Il y a les élections communales.
En 1960.
Et Bagassoré est en résidence surveillée. Les élections ont lieu et l'Uprona essuie un échec cuisant. Comment est-ce que l'indépendance est quand même intervenue? Comment est-ce que l'indépendance a quand même pu advenir?
Eh bien, magnifique. Et regardez, Bagassoré, il était grand, quel que soit le côté où on le considère. Regardez, quelle maîtrise cet homme. Il accepte d'aller, mais bien sûr, il accepte contraint et forcé. Il va en résidence forcée à Bururi, pas en prison, je le reconnais. Il n'est pas envoyé en prison à Bururi. Non, il est forcé à la résidence dans une maison de l'administration. C'est la seule faveur qu'on lui a faite, on ne l'a pas envoyé en prison. Mais il est là du 27 octobre 60 jusqu'au 9
décembre de la même année. Voilà, il est là, à résidence forcée. Il est immobilisé pendant que l'administration et le Front commun font campagne, me tapent des mains, des pieds, parcourent les campagnes, couvrent toutes les campagnes. Pendant 3 semaines, les élections communales sont préparées et se tiennent pendant 3 semaines, l'une après l'autre, pas en même temps. Une commune, et puis une province, et puis l'ensemble, pendant 3 semaines. Résultat du scrutin communal qui se tient du 15 novembre 1960 au 8 décembre, le résultat est le suivant. PDC, donc, Klabaranyanka Kidendereza Birori, le PDC obtient 32% des membres des conseillers communaux et bourgmestres. 32%, ça revient au PDC. Voilà. Première place, PDC. La deuxième place, après le PDC, miracle, c'est Gwagasore Uprona. Alors que Gwagasore était empêché, était immobilisé totalement à Bururi. Il obtient 19%. Deuxième. Troisième, c'est le prince Ngezi Bigayimpunzi, le fils du grand Ngezi Karavone. Il obtient 18% des voix. Voilà, trois princes, donc trois Tutsi, pour simplifier, pour parler le langage de l'époque, il n'y a pas de Tutsi et d'Oganois pour la plupart des gens. Et tant mieux, et c'est vrai. Et les voilà, donc les trois Tutsi, pour faire simple, occupent les trois premières places. Le quatrième rang, quatrième place, est occupé par le PP de Emmanuel Nigane et Moss. Parce que c'est Moss qui a fondé ce parti. Parce que c'est Moss qui a préparé le projet de statut. Parce que c'est Moss qui a demandé l'autorisation du premier congrès constitutif du PP à Gitega. C'est lui qui a obtenu l'autorisation au nom de ce parti. C'est lui qui a organisé la première réunion constitutive de Gitega pour ce parti. Voilà, ce parti-là obtient la quatrième place. Avec combien? 8%. Le quatrième parti, c'est le parti UNB, c'est l'Union Nationale des Barundi de Joseph Chimpaï.
Les autres qui était Chimpaï, en fait, d'où il venait ce Joseph Chimpaï?
Chimpaï est un ancien de Dastrida, un vétérinaire et ami de Katikati. Et c'est lui qui m'a dit ce que était cet homme,
d'ailleurs ce qu'il a montré
dans sa vie privée professionnelle. Un homme excellent, agréable, intelligent. Et le voilà, il est cinquième. Et voilà ce qui est formidable dans la démarche colonisatrice. Au lieu de prendre Migal, qui est cinquième,
oui, qui est quatrième,
eh bien, la puissance coloniale prend le cinquième, qui a eu 3% des voix. Qui a eu 5%. Je l'écris, 5%. Migal a eu 8% et Chimpaï a eu 5% des voix.
Mais c'est surtout un camouflet pour le PDC de Jean Didendeleza. Comment se fait-il que le PDC arrive en première place avec 32% et n'obtient pas le poste de premier ministre?
Eh bien, voilà un des mystères qui n'est pas un mystère. Qui n'est pas un mystère, sauf pour celui qui ne voit pas. Eh bien, justement, voilà, nous y sommes, Athanas. Voilà, la puissance coloniale n'entend à aucun nommé donner les clés de la souveraineté du Burundi à Mugano, c'est exclu. En Tutsi, c'est exclu. Même à Hutu, non, la puissance coloniale ne cherche pas à donner les clés du Burundi en Burundi. Qu'il soit Hutu, qu'il soit Tutsi, qu'il soit Ganois, qu'il soit Dieu, qu'il soit diable, non pas un Burundi à la tête du Burundi indépendant. Alors, qu'est-ce que la Belgique veut faire du Burundi? La Belgique veut fondre dans le même chaudron le Burundi et le Rwanda, et dans ce chaudron immense que va devenir le Congo, la future entité envisagée, ça va être avec le Congo, tout cet immense chaudron, on va fondre ensemble pour sortir une unité politique, économique, puissante, entre les mains du roi des Belges. Et qui va provisoirement, entre cette date des élections communales et les dernières élections, qui va piloter le Burundi et le Rwanda? Kayibanda, celui qui va être préparé pour être le chef des deux pays déjà fusionnés, le Burundi et le Rwanda. Fusionnés, mais sans un retour à la tête ni du Rwanda, ni du Burundi. La Belgique et l'Église catholique veulent Kayibanda, qui n'est ni Hutu, ni Rwanda d'origine. Il est devenu, comme beaucoup ont pu le devenir, Rwandais ou Burundais ou Congolais, parce que habitant là-bas au moment de la colonisation, eh bien, l'Église catholique et la puissance coloniale ne veulent pas d'un Tutsi, de aucun autre, si ce n'est un étranger, Kayibanda. Point à la ligne. Voilà. Alors, c'est pour cela que Dende
Gomez n'est pas nommé.
Évidemment pas le Gaston. Ça c'est exclu. Il est deuxième. Évidemment pas le Gaimbose. Parce qu'il est Ganou. Parce qu'il est Toti. Évidemment pas. Ni Gagne. Parce qu'il est Routou. Non, on sait que c'est quelqu'un provisoirement qui va tenir lieu de chef.
Jusqu'à l'indépendance.
Jusqu'à l'indépendance. Je lui dis que c'est Ni Gagne. C'est Joseph qui va être nommé, qui sera nommé premier ministre. Il va être nommé au moment crucial du 29 janvier 1961. Il va être nommé premier ministre. Premier ministre, c'est Tshibaye qui est nommé. La question a été posée au Mami Mwambose. Est-ce que vous souhaitez que nous nommions en premier ministre? Je vous l'ai dit déjà, en premier temps, le Mami a dit oui. Allez-y. Retournez à son palais, à Gitega, à Magarama. Il dit ce qu'il vient d'avoir comme conversation du résident. Ils lui disent, attention, Mami, vous venez de signer cette fois-ci votre arrêt de mort, votre destitution. Allez dire aux résidents que vous allez reconsidérer que il y a un petit réglage à faire qui reste et puis on va voir. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, pendant que Mami hésitait entre le oui et le non, pendant qu'il faisait la navette bureau, cabinet du résident, palais, cabinet du résident, pendant qu'il faisait ce petit va-et-vient, les commissaires de l'ONU ont atterri sur l'aéroport de Gitega. Et à partir de cet instant, l'irréparable qui allait tomber, l'irréparable qui consistait à casser définitivement la monarchie burundaise, créant ainsi les mêmes conditions de massacre, d'expulsion, d'extermination de Tutsi du Burundi, pendant que ça allait prendre le corps, Mwami Mwambutsa, à cette vaste hésitation, a sauvé et son tambour, et son pays, et lui-même, et les Burundis. C'est là où Gwagasore, cette fois-ci, n'est pas seulement provoquant, il ne provoque pas seulement la présence de lui, c'est il a la narme. C'est inacceptable que Gwagasore puisse continuer à narguer, à empêcher que veut la puissance de tutelle de se réaliser. Cet homme est inacceptable.
Voilà. Les élections qui devaient avoir lieu au mois de mars 61, les élections législatives, sont repoussées au mois de septembre grâce à la pression des Nations Unies. Et ces élections donnent la victoire à Louis Gwagasore et à Luprona. Accélérons la réflexion. Quand est-ce que la date du jour de l'indépendance est avancée pour la première fois? Et qu'est-ce que ça a provoqué dans les rangs de la tutelle coloniale belge?
Eh bien, faites bien de faire le lien entre ce moment du 29 janvier 61 et la date du jugement dernier. C'est comme ça qu'on nous l'a fait. La date du jugement dernier où les vivants et les morts vont juger la puissance de tutelle. C'est à ce moment-là, c'est cette jonction, c'est cette, la date de l'indépendance n'est pas encore déterminée. Elle ne peut même pas l'être à ce moment-là. Mais déjà, voir que Gwagasore est encore en vie,
c'est un problème.
Mais déjà, à partir du 29 janvier 61, déjà, la puissance de tutelle n'a pas pu atteindre son but ultime de liquider le tambour du Burundi tenu par Mwambutsa. Il n'a pas pu liquider à partir de cette date les Tutsis du Burundi comme il l'a fait au Rwanda. Et à partir de là, la mort, l'arrogance de la puissance de tutelle a été un peu refroidie. Parce que le 20 décembre 60, après les élections communales, après l'Assemblée générale des Nations Unies, le comité de tutelle a tenu sa réunion, a transmis à l'Assemblée générale le souhait de voir une commission envoyée au Burundi et au Rwanda pour évaluer les résultats issus des élections communales. Parce que les avis, il y a une controverse sur la véracité et de ce scrutin. La commission, l'Assemblée générale vote la résolution 1579 qui demande deux choses. L'une, que le scrutin législatif qui devait suivre immédiatement en janvier 61, devait suivre en 61, que ce bulletin soit reporté jusqu'à la nouvelle date. Deuxièmement, que trois commissaires soient envoyés au Burundi et au Rwanda pour évaluer les résultats du scrutin
budget communal. Et c'est cette date, cette résolution 1579 du Conseil de l'Assemblée Générale qui refroidit considérablement la Belgique. Lisez bien le livre de Harwa, Burundi, 1955-1962, Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue, c'est le sous-titre, Souvenir d'un combattant. Et combattant, vous sentez combattant. Combattant de quoi? D'une guerre perdue. Guerre perdue contre qui? Guerre perdue contre le roi d'Assad. Et ça, c'est un livre qu'il a écrit en 1987, 26 ans après sa défaite. Il a senti qu'il a mené une guerre qu'il a perdue contre le roi d'Assad. Une guerre. C'est une véritable guerre. Et le dessin géopolitique et géostratégique exigeait cette guerre. Et Harwa l'a mené, il l'a perdu. Il le reconnaît. Mais avant de perdre cette guerre, il a fait des dégâts considérables et notamment la mort de Ouaga Soré. Et attendons donc Ouaga Soré. Et maintenant, il a été en prison pendant les élections communales. Les élections législatives qui devaient enchaîner sont reportées. Ouaga Soré est libre. Mais diable, le voilà maintenant revigoré. Il vient de la prison. Il est libre. Il peut parler. Il peut écrire. Il peut aller là. Il peut venir. Il peut sortir. Il peut aller aux Nations Unies. Et effectivement, au mois d'avril, il va assister à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est après cette session que il y a une nouvelle résolution 1605 qui demande que les préparatifs pour le scrutin législatif soient immédiatement entamés. Voilà, Ouaga Soré est libre. L'Assemblée Générale fixe déjà la date des élections législatives en accord avec la puissance de terre, la Belgique. Ouaga Soré est libre. Ouaga Soré jubile. Ouaga Soré n'a pas gagné. Il a eu 19%. Tant pis. Dans le scrutin local. Le scrutin décisif, crucial, est celui à venir. La date des élections n'est toujours pas tout à fait confirmée. La date des élections va être fixée au mois de juillet 1961. Élections, pas encore l'indépendance. La date est finalement fixée. Des élections législatives. Le dernier est crucial scrutin. Et voilà que Ouaga Soré libre parcourt le pays. Demande. Écoutez bien, Ouaga Soré, c'était un génie, un véritable génie. Il n'avait pas 30 ans à l'époque. Et il organise une démarche politique d'une efficacité sans faille. Jamais une guerre. On va parler d'une guerre. C'est une guerre. Ouaga Soré est en guerre contre le président général. Les deux sont en guerre, l'un contre l'autre. Le Burundi contre la Belgique. La Belgique contre le Burundi. C'est Harwa qui le dit. C'est pas moi, c'est Harwa. Dans son livre, la guerre. Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. Donc, les deux protagonistes vont. Ouaga Soré va gagner la guerre. La guerre contre son adversaire. Comment? Voici le génie des génies. Voilà où, en quoi il consiste. Ouaga Soré se prépare pour le 18 septembre 61. Il se prépare à son scrutin tranquillement, pas inquiété. Les membres du comité de tutelle sont en place et ils ne viennent pas observer. Ils viennent co-organiser, co-gérer le scrutin législatif prévu le 18 septembre. Ils ne sont pas observateurs, ils ne jouent pas le deuxième loquet. Ils sont égaux, pouvoir égal entre la puissance de tutelle et le commissaire des Nations Unies. Et voilà. Ouaga Soré est tranquille à cause de ça. Il peut aller où il veut. Il peut aller sortir, aller chez Nyerere, aller visiter celui-ci et revenir. C'est ce qu'il fait en avril. Et voilà qu'on s'achemine le 18 septembre. Le 18 septembre, c'est le jugement dernier pour le colonisateur. Le jugement dernier. La fin du monde pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit. Nous l'avons vu, analysé ensemble. Pendant les émissions de Rigaviro, nous avons vu que ce jour-là, Ouaga Soré gagne la guerre. Parce que Harwa nous rappelle une guerre législative ou juridique. Non, c'est une guerre.
Ouaga Soré gagne. Comment il gagne? Il gagne avec 91%. Apparemment, les hostilités cessent. Le vrai cessent. Mais non, les hostilités ne cessent.
Au contraire,
les hostilités augmentent en intensité. À partir de ce moment,
quand il gagne les élections, avec un tel score,
c'est évidemment les
voix le plus effroyable du côté adverse.
Du côté de la puissance de tutelle, plus que du côté
de ses concurrents
burundais, Bachari, Vézi et autres.
C'est du côté du colonisateur où véritablement ça a été un coup de tonnerre, plus qu'un coup de tonnerre, un coup de massue.
Alors voilà où véritablement l'irréparable va être concocté et commis. Kuri ndasaba na bamama sako kuri yangabi ya gasimba gasimba gasumba biguruki bigendera hasi no mumazi ndakanagara ndakakiriza yo mindagashira ku rutaro rw'umuzinga babibonye bari bamwe ne kigoye ndabarekana meza amatabagwa biyambaga bibwa byabakajugwa n'uko begama horo.
tuveko tukisangirirako mile 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 ina misumbi ngimba bene ngabinga
mani kusura
misumbi ngimba bene ngaunga
mani kusura
ina misumbi ngimba bene ngaunga
mani kusura
misumbi ngimba bene
Nous sommes aux élections cruciales, définitives, qui ouvrent la voie à l'Ukraine pour accéder à l'indépendance. À la date, à quelle date? À la date que vont fixer quatre partenaires. Le Burundi, bien entendu, intéressé au plus haut point par une indépendance immédiate, mais immédiate. Parce que le Burundi est pressé, très pressé. Pourquoi le Burundi est-il pressé? Un, Wagasore, quand il remporte 91%, il est tué 25 jours après, le 13 octobre. Et à ce moment-là, le Burundi veut encore accélérer la date de l'indépendance. Pourquoi? Parce que il est connu que non seulement Rwagasore doit disparaître après Lumumba, après Mutara, Rwagasore doit disparaître parce que c'est lui qui mène la vie dure à la puissance telle et au pouvoir de Kayibanda au nord. Et il n'est pas accepté à Léopoldville parce que son ami et allié Lumumba a été liquidé au mois de janvier déjà, 61. Il y a d'abord le chaos total au Congo et il y a une reprise en main du Congo par les hommes de main de l'ancienne puissance de tutelle et ses alliés. Donc le Burundi est pressé à l'intérieur parce que il veut sauver les leaders de ce moment-là, Muhirwa, Mwambutsa et leur gouvernement. Je suis déjà presque secrétaire d'État à la défense. Alors, on veut accélérer. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de retarder l'indépendance du Burundi. Le Muhirwa risque de suivre Rwagasore, Mwambutsa risque d'être assassiné, Gennady risque d'être assassiné, et c'est ce qui apparaît dans le livre de Harwa. Il le reconnaît. Et c'est pour cela, en partie, que le gouvernement Muhirwa, qui succède à Rwagasore, demande, instruit, donne les directives à son plénipotentiel, Pierre Gennady. C'est lui que le gouvernement autonome du Burundi, dirigé par Muhirwa, nomme comme plénipotentiel pour aller négocier avec le gouvernement belge, qui a nommé son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, pour mener les négociations avec le Burundi d'une part et le Rwanda d'autre part. Le Burundi, Ngendandumwe, part à Bruxelles négocier la date de l'indépendance avec la Belgique, avec le Rwanda, avec les Nations Unies. Quatre parties intéressées, dont le Burundi. Mais le Burundi, c'est lui qui est intéressé au plus haut point, plus que les trois autres partenaires, pour une indépendance immédiate. Parce que les leaders sont en danger, se sentent en danger. Mwambutsa en danger, son premier ministre en danger, son vice-premier ministre Ngendandumwe en danger, nous tous en danger. On veut accélérer, on veut quitter cet état de peur, de suspicion. Le plus rapide, le plus tôt, c'est le mieux. Ngendandumwe part à Bruxelles. Le 21 décembre 1961, Ngendandumwe signe le protocole de Bruxelles. Ce protocole de Bruxelles a comme objectif de déterminer les zones de pouvoir, les zones d'autorité qui peuvent être cédées immédiatement au gouvernement Muhirwa, gouvernement autonome dirigé par Muhirwa. Ce sont les activités, les zones, les secteurs qui relèvent, disons, de la vie courante. Exclut les prérogatives qui restent entre les mains de la puissance de tutelle parce que l'accord de tutelle n'est pas encore expiré. L'accord de tutelle va expirer le 1er juillet 62 quand le Burundi devient indépendant. Donc la Belgique a encore entre les mains la responsabilité du Burundi et du Rwanda, notamment en matière de relations extérieures, en matière monétaire, en matière de sécurité, surtout ces secteurs-là qui relèvent des responsabilités régaliennes de l'État de tutelle. Ces secteurs-là de sécurité, de relations avec l'extérieur restent entre les mains de la Belgique. Le reste va être transféré en vertu de ce protocole entre les mains du gouvernement du Burundi. Et le gouvernement du Burundi veut accélérer le plus tôt, c'est le mieux. Mais il y a un handicap. Il y a un handicap et l'handicap est celui-ci pour le gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi a la sympathie du groupe afro-asiatique qui qui est majoritaire à l'époque à l'Assemblée générale des Nations Unies et au comité de tutelle. Le Burundi est à l'aise, il est à l'aise quand ses pétitionnaires de l'UPRONA vont au comité de tutelle pour exposer ses doléances. Pétitionnaires. Guagasole y est allé en avril pour exposer son plan. Mais le plan de Guagasole exposé aux Nations Unies, c'est un plan grave contre la puissance de tutelle. Guagasole demande notamment devant les Nations Unies que la Belgique lève immédiatement sa tutelle, qu'elle soit relevée de ses fonctions, que l'aéroport de Bujumbura soit gardé par les troupes de l'ONU, que le Burundi ait l'indépendance immédiatement, sans autre condition. Évidemment, la présence de tutelle est dans l'embarras le plus total. Et Guagasore rencontre là-bas qui, comme pétitionnaire aussi, le Mouami Kigeli, et les hommes exceptionnels, des hommes intelligents, des hommes puissants, des hommes qui ont la cote au sein du bloc afro-asiatique, les leaders de l'UNA, parti de Mouami Moutara. Le Mouami Kigeli, qui a succédé à Moutara, et les deux, Guagasore et lui, rencontrent Nyerere, qui est allé aussi comme pétitionnaire au nom du Tanganyika Territory. Les trois se rencontrent au même lieu, devant les mêmes interlocuteurs, qui sont favorables aux trois. Et embarras de la Belgique. Mais en même temps que le Burundi est à l'aise devant les membres du Conseil de tutelle, handicap, pas grave, mais handicap, le Burundi veut l'indépendance séparée du Rwanda. Or, au Conseil de tutelle, bien que le groupe asiatique soit favorable à la thèse et nationaliste, patriotique, panafricaniste du parti prônant, ainsi que position intransigeante de l'UNA dans le même secteur, nationalisme, patriotisme, panafricanisme, mais les deux rejoignent sur cette terre-là, mais le conseil de tutelle, les membres du conseil de tutelle, le groupe afro-asiatique, ne comprend pas pourquoi et comment le Burundi peut refuser. Son panafricaniste est convaincu, le Burundi est panafricaniste, et il refuse d'être indépendant avec le Rwanda dans l'unité, parce que aux yeux du groupe afro-asiatique, il y a territoire du Rwanda-Burundi qui doit être indépendant dans l'unité, comme une entité unique, rien séparé. Il faut que les deux soient indépendants en même temps. Comment ils vont s'appeler, ça peu importe, mais il faut qu'ils acceptent d'être indépendants en même temps, comme une entité, sans autre forme de procès. Le Burundi refuse, mais avec énergie. Et Nalunga a refusé ça. Tout le monde refuse d'être indépendant avec le Rwanda, dans l'unité. Ils s'expliquent. Ils disent, mais vous voulez que nous soyons indépendants avec un génocidaire. Vous voulez que le Burundi soit contaminé par la maladie, par la pandémie du génocide contre les Tutsis au Rwanda, contre les Tutsis au Burundi, contre les Tutsis dans la sous-région, contre les Tutsis dans le monde. Non, on va être indépendant, nous seuls. Et puis après, si le Rwanda est guéri, on va se marier de nouveau. Mais pas avec un Kayibanda, pas avec un Rwanda dirigé par Kayibanda. Non, ça on ne peut pas. Et il y a un léger malentendu qui refroidit considérablement le bloc afro-asiatique, qui pourtant voudrait voir le Burundi accéder à l'indépendance immédiatement. Le Burundi propose une date, le 31 mars 62. Mais les tractations entre le Burundi, les tractations entre les membres du Conseil font que le 31 mars n'est pas acceptable. Et pour la partie belge, et pour la partie rwandaise, et pour la partie des Nations Unies. La Belgique tire vers le bas, tire le plus possible, retarde la machine, veut pas qu'elle se lance avec le Burundi à la tête, qui demande l'indépendance, avec le risque qu'il y a à contaminer le Rwanda, qui est déjà acquis, qui est déjà dans l'escarcelle du colonisateur et de l'Église catholique. Seigneur, il faut sauver le Rwanda du Burundi. Il faut faire en sorte que le Burundi soit de nouveau, il faut que la proposition du Burundi soit rejetée. Le Burundi dit, ok, nous allons vous proposer une autre date, le 15 mai. Le 15 mai, il faut absolument donner l'indépendance. Il faut. Ça, c'est Nganou, ça, c'est le gouvernement Mejwa qui parle. Mais ça ne va pas non plus. Et alors quoi? Où on va? Eh bien, tout à fait de guerre lasse. Tout à fait avec des réunions au sommet, avec une autre réunion qui va se tenir finalement à Addis Abeba. Mais après l'indépendance, on a dit, mais est-ce que vous n'allez pas vous engager au moins à revenir sur votre position après le 1er juillet? Le Burundi a dit oui, on va voir. Et effectivement, le Burundi s'est engagé à aller aux négociations avec le Rwanda à Addis Abeba sur les visites de l'ONU pour voir si le Burundi ne peut pas accepter, même après avoir reçu son indépendance qu'il cherche à tout prix, Est-ce que le Burundi ne peut pas accepter quand même de sauvegarder l'indépendance du Rwanda Burundi comme une entité? Le Burundi dit niet, après, même après le 1er juillet, au cours de cette conférence qui s'est tenue à Addis Abeba. Muhirwa était parti pour ça. Panganangwe, même Muhirwa lui-même. Eh bien, ils ont dit non, on ne se marie pas avec un génocidaire. On ne fait pas ça. C'est interdit pour la sécurité du Burundi, pour la sécurité du Rwanda, pour la sécurité du Rwanda Burundi, pour la sécurité de l'Afrique, pour la sécurité de l'humanité. On refuse définitivement. Termine. Le Burundi devient indépendant, le 1er juillet, par, à force de forcer, à force de tenir, à force de négocier, le Burundi devient indépendant le 1er juillet. Mais nous avons su d'une façon certaine que le Burundi serait indépendant le 1er juillet. La date n'a été fixée définitivement que vers la fin du 1er juin, juste un mois avant l'indépendance effective du Royaume du Burundi. Un mois avant. Résultat, le 1er juillet 1962, nous n'avions rien de prêt pour recevoir les visiteurs, pour recevoir la population, pour nous réjouir, pour danser, pour chanter, pour clamer notre joie immense d'obtenir l'indépendance de notre pays à force d'avoir forcé, à force d'avoir lutté. Nous avons perdu, oui, nous avons perdu l'homme le plus précieux que nous ayons pu. Nous avons perdu beaucoup d'énergie pour essayer de sauver ce qu'il pouvait encore y avoir à sauver. Et 1er juillet, le voilà. Voilà le 1er juillet. Et on a l'indépendance, 1er juillet, par fatigue, et de nous-mêmes, et de la Belgique, et du Rwanda, et des gens du Conseil. Allez, prenez votre indépendance. Nous l'avons eu. Mais, regarde, dans la désolation, en désaccord avec la Belgique, en désaccord avec le Rwanda, en désaccord avec le Congo, on aurait souhaité qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de récrimination, ni l'un envers l'autre. C'est ce que Rwanda se l'avait souhaité. C'est ce que Rwanda se l'avait souhaité. Dans le magnifique discours, écoutez bien les amis, dans le magnifique discours de Kwaga Soley du 20 septembre, après sa deux jours après sa victoire, du 18 septembre, le 20 septembre, vous vous souvenez, il a prononcé le discours immortel qui est toujours réécouté le 1er juillet quand il a dit Burundais, nous venons de gagner. Mais c'est tout le monde qui a gagné. Vous de l'Uprona, vous de l'opposition. C'est vous, c'est nous tous qui avons gagné. Nous sommes les fils et les filles du même pays, de la même patrie, de la même mère. Et nous sommes les fils, les filles du même moine belge qui avait porté le fardeau de la colonisation sur vos épaules. Vous pouvez, sans crainte, sans peur, déposer ce fardeau que vous portiez sur nos épaules. Nous allons le porter, nous-mêmes, maintenant, nous nous engageons. Et croyez-nous, ayez confiance en nous, nous n'allons pas vous décevoir. Notre succès sera votre succès et cela fera notre fierté. C'est ça le message de Kwaga Soley. Devant tes partenaires, devant l'humanité, quel est l'homme qui aurait pu prononcer un tel discours devant ses adversaires, avec une telle bombe? Quel est l'homme qui aurait pu dire à Harwa? Harwa ne l'a pas salué dans son discours. Il ne le remercie pas. Il ne le remercie pas. Harwa est là. Il ne dit pas, veuillez dire au gouvernement belge que je... Non, il n'en parle pas. Il remercie le peuple belge. Il remercie le peuple belge. Il ne remercie pas Harwa. Il ne remercie pas le roi des Belges. Il remercie le peuple belge. Et c'est lui qui dit, vous sera votre fierté. Et permettez-nous d'être vos amis, vos frères. Et voilà la grandeur. Voilà l'homme. Voilà la force inébranlable. Voilà la force qui a fait que le Rwanda serait à gagner une véritable guerre. Une véritable guerre. Je dis toujours, stratège militaire, dans les écoles militaires, elle devrait enseigner comment un leader burundais de 29 ans a pu gagner une véritable guerre sans recourir à l'arme de guerre. D'abord, il n'en avait pas. Il n'avait même pas une aiguille. Il n'avait même pas un couteau de cuisine. Il a gagné une véritable guerre. C'était une guerre en effet. Regardez le sous-titre du livre de Harwa. Souvenir du combat, d'un combattant, d'une guerre perdue. C'est une véritable guerre. Et il a gagné sans aucune arme de guerre. Sans...
Alors, le jour de l'indépendance arrive, vous disiez que vous n'étiez pas préparé, vous n'aviez rien. Est-ce que vous vous souvenez du décor de cette période, de ce jour-là?
J'étais d'autant plus honoré, d'autant plus heureux que le gouvernement du Burundi m'a honoré d'être son journaliste d'un jour pour interpréter, pour commenter les cérémonies qui se tenaient à la date du 1er juillet. Cérémonie très simple, parce que nous avons eu ce jour-là, chanté par Monseigneur Gross, tous les évêques réunis. Après la messe, nous nous sommes rendus au stade de Rwagasore, qui n'est
n'était pas du tout en stade. Peut-être qu'on avait posé déjà la pierre de la première pierre, mais qui n'avait aucun début de commencement, qui sera construit 3 mois après. Nous avons organisé les vraies festivités le 28, le 27, le 28 et le 29 septembre, parce que nous n'avions rien du tout, aucun stade où on pouvait réunir la population burundaise venue célébrer sa renaissance, sa redécouverte de sa propre souveraineté. Le peuple burundais devait venir être l'acteur principal ce jour-là. On ne pouvait pas le réunir sans stade, sans rien, sans micro, sans radio. Eh bien, nous avons organisé deux cérémonies, la messe de l'hôtel, puis cérémonie de mise des attributs de la souveraineté du Burundi. Remise, donc, déclaration de l'indépendance du Burundi par le représentant du gouvernement du roi de Belgique, par le Mami, par le Premier ministre, et c'est moi qui étais journaliste d'un jour qui commentait la cérémonie. Je vous ai dit, on le rappelle, au moment où le drapeau belge est descendu et où le drapeau du Burundi a été remonté, j'ai dit, voilà, le drapeau belge descend, la Brabançonne retentit, voilà le drapeau du Burundi qui monte, Burundi Bwacu retentit. Pour moi, c'est le moment le plus sublime, le plus prestigieux, que je n'oublierai jamais, parce qu'il était beau. Résultat de la course, je me suis presque évanoui de bonheur. Mais ça n'est pas arrivé, heureusement. Et aujourd'hui, 60 ans après cette date, où nous avons célébré le retour de la souveraineté du Burundi, c'est ce jour-là où le Burundi a fait sa renaissance, sa résurrection. Le Burundi est ressuscité ce jour du 1er juillet 1962. Et là, mes amis, nous devrions nous souvenir du chemin parcouru. Comment nous sommes arrivés là? Ces jours, nous souvenir des hommes et des femmes qui ont tenu bon contre vent et marée, contre toutes les difficultés, contre toutes les menaces. En définitive, pour libérer le Burundi, évidemment, le Rwanda, malgré lui. Le Rwanda ne voulait pas de l'indépendance immédiate. La Belgique, évidemment, n'en voulait pas. Les Nations Unies voulaient bien, mais dans l'unité. Le Burundi a dit, excusez-nous, nous sommes amis, mais attention, il y a des choses là que vous sous-estimez. Attention, il y a danger si on entre dans l'unité avec le Rwanda. Et puis, nous sommes devenus indépendants. Le Burundi a libéré le trio Mwambutsakata. Le trio Mwambutsakata, Kwagasore, Muhirwa a libéré littéralement le Burundi, le Rwanda et la Belgique. La Belgique a été libérée ce jour avec nous, avec le Rwanda, avec les Rwandais. La Belgique a été libérée de ses responsabilités, a été libérée du poids de l'homme blanc de coloniser l'homme noir.
Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Madaïs de Nonchain.
À la présentation était Athanase Karayenga, montage du son et générique Mahoro Luc Albert, musique Teguiteka Burundi de Mabano Revival, production Fondation René Burundi.